Bienvenue sur Fréquence Mistral, bienvenue dans l'émission 100% foot. À toutes et à tous, nous souhaitons une bonne également soirée. Je ne sais pas à quel moment vous serez à l'écoute. Patrick est toujours présent pour m'épauler et c'est rien de le dire. Ouais. Toujours présent et nous en profitons pour souhaiter une belle fête, une joyeuse fête à Patrick. C'est la Saint-Patrick, ne l'oublions pas, aujourd'hui. C'est un jour important.
Oui, et donc un petit salut à notre ami Thierry qui, dans les jours à venir, animera une autre émission sur le foot.
En parallèle.
Plus international et autre que le foot local, que le foot marseillais, le foot régional, que vous pourrez entendre évidemment sur les zones de fréquence Mistral.
On pourra aborder justement nos équipes européennes, toujours en compétition, et les matchs internationaux à venir.
L'équipe de France, etc.
Tout à fait.
On rappelle qu'il y a une Coupe du Monde dans quelques mois. Voilà. Et nous allons rester sur le foot local et nos amis de Maderbel, les féminines de l'Olympique de Marseille Ligue 1, l'équipe masculine de l'OM. Nous allons donc faire un petit débrief de ce week-end et en commençant par nos amis d'Aubagne.
Eh oui. Qui ont entamé la 25e journée, donc ce vendredi dernier. Malheureusement, Aubagne, qui jouait à Dijon, a perdu 2-1 sur le score de 2-1. C'est non pas dommageable, c'est vraiment non pas préoccupant, mais dommageable, ça commence à le devenir.
Oui, oui, parce qu'on rappellera qu'il y a eu une circonstance un peu particulière. On rappelle à nos auditeurs que les équipes de nationale, donc 3e division, n'ont pas 20 joueurs sur la feuille de match comme les pros, Ligue 1, Ligue 2. Ils ont 16 joueurs, puisqu'ils ont droit à 5 remplacements, et qu'ayant droit qu'à 16 joueurs, la plupart ne mettent pas un deuxième gardien sur le banc. Et le gardien de Dijon s'est blessé en première mi-temps, il s'est blessé à l'épaule ou au coude, et il a dû sortir. Et donc, il a été remplacé par un joueur de champ.
Un défenseur, en l'occurrence, de Dijon, de forte taille.
Voilà, ils ont pris un grand qui était défenseur central de métier et qui n'est pas l'expérience d'un gardien. Le but qu'il encaisse du jeune Maïla, jeune avant-centre prêté par Saint-Étienne, jeune de 19 ans prêté à Herbel par Saint-Étienne, et qui est sur une frappe où il se trouve, mais alors assez lamentablement. Et Aubagne aurait pu en profiter, peut-être, d'avoir un gardien inexpérimenté en face. Malheureusement, ils ont concédé deux pénalties. Voilà. Donc, le premier sur une corner, il y en a un qui s'est cru au basket, il a détourné le ballon de la main.
Oui, une faute de main quand même un peu grossière.
Oui, un peu grossière. Et en fin de match, alors qu'ils étaient revenus à un partout, mec qui rentre dans la surface, qui part en dribble, et puis un pied, et puis mec il est par terre, et pénalty. Certains l'estimeront sévère, mais franchement.
Oui, je l'ai estimé ainsi en visionnant les images, mais malheureusement c'est l'arbitre qui décide.
Malheureusement c'est l'arbitre qui décide, le mec qui rentre en pleine vitesse, il est touché, ça c'est incontestable, et il tombe. Donc pénalty, et tu perds 2-1, alors que tu aurais pu avec un peu plus de réussite, un petit peu de chance.
Voilà, plutôt.
Ramener un match nul, un bon résultat.
Ça me parle de réussite, on peut parler de moins de malchance.
Voilà, oui, parce que tu es malheureux, tu prends la barre, enfin, je veux dire, tu mets Dijon en difficulté. Dijon, qui on le rappelle, est leader. C'est le leader.
Voilà.
Il joue la montée. Et là, tu avais l'occasion de grappiller un point ou de faire un truc, et tu perds avec en plus un sentiment de déception qui doit être.
Pour ne parler de frustration également.
Oui, de frustration, mais je pense que c'est le mot. Parce que franchement, il y avait un coup à faire. Malheureusement, cette équipe n'est pas en réussite. Depuis janvier, ils n'arrivent pas à enquiller des résultats.
En effet, ça reste une 4e défaite d'affilée et 5e d'affilée sur 7 matchs. Ouais.
Voilà, 5e sur 7 matchs, ça fait beaucoup. Surtout que la prochaine journée, à domicile à Aubagne, tu reçois un autre candidat à la montée, qui est le FC Sochaux.
Voilà, ce vendredi 20 à 19h30.
Voilà, une équipe solide avec des joueurs qui ont joué en Ligue 2, mmh. qui sont des bons pros. Et ça va être difficile. Et tu as le sentiment, hein, on en parlait, Franck, oui. tous les deux, avant l'émission. Oui. Tu as l'impression qu'il y a une dynamique négative dans cette équipe, qu'il y a une perte de confiance. Parce qu'en début de saison, jusqu'à la fin d'année, jusqu'à Noël, quoi, les mecs, ils étaient très dangereux en contre, oui. costauds derrière, solides. Très structuré.
Cette faculté, voilà. je dirais, de détromper les équipes adverses, d'autant plus à l'extérieur,
oui, oui,
sur des contres.
Voilà, ultra rapide. Avec
des joueurs de couloir et de pointe qui étaient voilà, efficaces.
Efficaces. Et là, tu as l'impression que tu as perdu ton efficacité, que tu as un manque de confiance collectif. Et défensivement, on parlait des deux pénaltys qui ont été concédés. Tu ne faisais pas ce genre d'erreur à la fin de l'année dernière, dans la première moitié de saison.
Oui.
Tu pouvais faire des erreurs, mais ouais. pas des trucs aussi grossiers et aussi énormes que de. Un mec qui rentre en pleine vitesse dans la surface, tu ne mets pas le pied, tu ne le touches pas parce qu'il tombe, évidemment.
Ça semblait évidemment une situation que l'on aurait pu éviter.
Quoi. Tout à fait. Voilà. Surtout que le mec, il était. Il était pas plein axe, il était sur le côté droit, donc oui. il pouvait centrer en retrait, ça pouvait être dangereux, mais enfin, il fallait qu'il centre et qu'il remette en retrait, c'était pas évident. Il est en pleine course, tu le touches, il tombe. Voilà, bon. Enfin.
Va falloir se remettre un petit peu en selle face à Sochaux. Donc ce vendredi, nous comptons sur vous, supporters voilà. provençaux, pour aller à Delattre-Tassigny, justement pour encourager cette équipe d'Aubagne-Herbel qui le mérite bien, mais enfin, ils auront besoin de soutien.
Voilà, c'est une équipe, rappelons-le, qui a peu de moyens et qui fait, avec quelques joueurs prêtés, des jeunes d'Herbel de 17-18 ans qu'on lance en pro. Et c'est une équipe qui est méritante, qui a pas par rapport à Dijon ou à Sochaux, les adversaires récents. C'est une équipe qui n'a pas les mêmes budgets. Quoi.
Oui, et la même stabilité au niveau
organisationnel, structurel. Voilà.
Totalement. Voilà. Donc voilà, affaire à suivre et on est de tout cœur avec eux. Voilà. Nous allons enchaîner avec l'OM féminine, Arkema, pour la 17e journée. Malheureusement, l'OM s'est incliné face au Paris Saint-Germain au campus du PSG 2-1. Voilà. Et malheureusement, nous aurions pu essayer, et même, je dirais, en ayant vu comme toi, je l'imagine, beaucoup de séquences de ce match, Corinne Diacre, nous le disions tout à l'heure en off, a bien resserré, je dirais, l'effectif
boulons. Ouais. Oui, l'équipe est nettement meilleure, on n'est plus à prendre des 5-0 contre, comme on l'a fait contre Lyon ou contre même Paris Saint-Germain. Avec Paris Football Club, c'est les trois équipes Ligue des Champions qui sont largement au-delà. On perd 2-1, ce qui est très honorable. En ayant fait un bon match, en ayant été courageuse, en n'ayant jamais été mangée.
Important à souligner.
On aurait pu peut-être, avec un peu de réussite, des fois un tir contré, un truc comme ça, arracher un point. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais par rapport à il y a 2-3 mois, l'équipe s'améliore, l'équipe joue est très solide et on a fait un bon match et donc c'est une défaite qui donne des espoirs parce que l'équipe joue mieux
Absolument.
Et plus costaud et on peut espérer que dans les semaines à venir on arrive à enquiller quelques bons résultats qui permettront, on verra dans 15 jours le match au Vélodrome contre Montpellier,
et oui.
match où les places sont à prendre gratuitement sur le site de l'OM pour remplir le stade et pour encourager les filles.
Voilà.
Et on espère qu'il y aura beaucoup de monde et que ça portera l'équipe et lui permettra de gagner le match. Parce qu'on a une équipe qui devient costaud et si tu arrives à stabiliser une bonne fin de saison avec des trucs solides, quelques renforts au mercato, pas forcément beaucoup, mais 3-4, hein, qui améliorent un peu. Bah, tu sens qu'avec Corinne Diacre, tu as quand même une entraîneuse d'expérience.
Ça a été le cas, comme tu le soulignes, c'est important. Il y a eu quelques retours de blessures également, qui ont contribué, non pas au renouveau de cette équipe, mais à une continuité favorable. Et je dirais, le maintien étant le but. De cette et la finalité. Donc, avant justement de recevoir Montpellier le 28 mars, que le stade ouvrira, il faut le dire, vu que Gannet et Jambouin, les deux tribunes, sont pratiquement complètes. Donc, l'ouverture des virages va se faire à partir d'aujourd'hui. Hein, nous sommes mardi, 17. Et voilà, donc, soyez nombreux, soyez nombreuses pour encourager cette équipe de l'Olympique de Marseille féminine qui aura besoin de vous. Sur leur parcours, évidemment, de maintien, mais je pense qu'elles méritent mieux que cela et elles ont des aptitudes à beaucoup faire et promouvoir ce football, je dirais, féminin que nous aimons tant.
Voilà. Et c'est une équipe qui a fait de gros progrès et qui est spectaculaire. Hein. C'est une bonne équipe. Après, tu n'as pas les joueuses de classe internationale comme tu as à Lyon ou dans les deux clubs parisiens,
non,
où
mais
tu as des stars.
Je note, pour parler d'une avant-centre, Mathilde Bourdieu, en l'occurrence, qui joue à Paris précédemment, mais qui a été plébiscitée pour faire partie des meilleures joueuses du mois de février. On verra ça à la fin du mois de mars, où on décidera qui...
Parce qu'elle souhaitait jouer à Paris FC, et elle souhaitait être titulaire, puisqu'à Paris FC, il y a Mathéo, qui a été meilleure joueuse du championnat l'année dernière. Voilà, à ta place, c'est une internationale qui est meilleure joueuse du championnat, donc c'est compliqué. Et elle est partie pour être titulaire, pour jouer, pour avoir plus de temps de jeu. Mais c'est une joueuse de qualité. Il y a quelques filles, Léger, tout ça, qui sont des filles de qualité.
Il ne faut pas oublier son quadruplé récemment.
Et donc, c'est une équipe intéressante que Corinne Diacre est en train de monter. Il faudra donc la renforcer, l'améliorer un peu cet été au Mercato pour s'inscrire et s'enraciner dans cette première division Arkema. Où on a une place à prendre et parce qu'aujourd'hui on est dans la moitié de celles qui jouent pour pas descendre quoi. Il y en a 4 ou 5 qui jouent pour les qualifs européennes et puis...
Oui, on le dit assez souvent, on ne fait pas partie du même championnat.
Il
y a deux championnats distincts.
8 Ligues des Champions, qui est une des meilleures équipes d'Europe et du monde. Tu as les deux parisiennes, PFC et PSG. Tu as Fleury et tu as Nantes.
Voilà.
C'est les 5 grosses.
Les équipes majeures de
le,
cette...
Le reste, Strasbourg et tout, c'est costaud. Et nous, le but, c'est de s'enquiller dans les 5-6, devant, quoi. En tout cas, bonne chance. Et puis, si vous avez la possibilité à Marseille, allez voir, c'est gratuit. Il faut simplement prendre sur le site la place, la réserver.
Voilà, la réserver au préalable, il n'y aura aucun souci.
Voilà, et vous pourrez aller encourager les féminines.
Donc, parce que le classement actuel n'est pas rédhibitoire et il faut quand même engranger les points plus que l'on pourra le faire. Donc, avant de recevoir justement Montpellier, nous irons jouer au Havre, face au HAC, une équipe qui se situe à un point devant nous, mais nous restons, je dirais, quand même dans une position avantageuse, enfin, dans la mesure où on peut dire cela, puisque...
Oui, on a 6 ou 7 points d'avance sur les relégables.
Oui.
Ça permet quand même de voir venir.
C'est Montpellier qui ferme la marche. Là, Saint-Étienne et Lens, qui sont derrière nous. Donc, continuons cette progression et d'engranger des points. Voilà. C'est ce qu'il faut. Voilà. Donc, que l'aventure continue dans le bon sens. Nous le souhaitons de tout cœur. Donc, on va pouvoir parler, non pas... de choses qui nous font peine parfois, mais la Ligue 1 est à 26e journée, très rapidement. Revenir sur les scores de cette journée, donc l'OM a commencé, a ouvert le bal tout simplement, face à une victoire contre Auxerre, 1-0 vendredi, suivi par Lorient qui a battu samedi 2-1 Lens, Angers a perdu face à Nice 0-2, Monaco a battu Brest 2-0, et dimanche, Strasbourg et le PFC ont fait match nul 0-0. Le Havre et Lyon ont fait 0-0 également. On va pouvoir en reparler justement de ce match-là. Metz a fait peut-être, ayant vu la plupart de ses matchs de Ligue 1 de cette journée, a perdu à domicile face à Toulouse 4-3.
Ouais.
C'était peut-être le plus beau match que j'ai vu
de Metz. Ouais.
Ouais. Pas que de match, de
mais
Metz.
De la journée.
De la
même,
journée, de la ouais, journée, ouais, on peut le dire.
C'était franchement ouais, pas ouais. de quoi à hurler deux jours.
Et Rennes ouais. a perdu à domicile, a marqué un but face à Lille, qui en a marqué deux. 2-1, donc ouais. pour Lille. Voilà, notre prochain adversaire. Voilà, et on en parlait en off tout à l'heure, le PSG et Nantes a été reporté à la demande du Paris Saint-Germain, et Nantes a, non pas accusé le coup, mais a accepté la demande sans interférer.
De manière surprenante, hein, parce qu'on rappelle que s'ils avaient dit non, le match se jouait samedi, et il était situé entre les deux matchs de Ligue des Champions du PSG, avec la très forte probabilité que Luis Enrique aurait fait tourner, que donc il aurait mis des gars sur le banc, que les joueurs, quand tu joues entre deux matchs de Ligue des Champions, tu as tendance des fois à lever un peu le pied parce que tu vas pas risquer de te faire mal.
On peut le comprendre.
Voilà. Oui. Et pour Nantes, qui est relégable 17e et relégable et à 2 points du barragiste et à 9 points du premier maintenu, il fallait aller chercher les points. Et c'est assez surprenant qu'ils aient accepté le report du match parce que ça les arrangeait absolument pas.
Ça les arrangeait pas.
Parce que là, ça va leur faire jouer le match en retard.
Ben ouais.
Une semaine où il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc ils vont jouer trois matchs en 7 jours. Et une équipe comme Nantes n'a pas l'habitude de jouer tous les mercredis, n'a pas l'habitude de faire 3 matchs en 7 jours.
Je ne vois pas l'intérêt que Nantes n'ait pas réagi à cette situation.
Voilà, c'est assez surprenant quand tu vois la difficulté, pourquoi ils ont accepté. Enfin bref, c'est le problème des supporters nantais qui d'ailleurs n'ont pas du tout apprécié la plaisanterie.
Je l'imagine.
Mais bon, c'est comme ça, le match a été remis. Là, on a eu une surprise qui est la défaite de Lens à Lorient.
Oui.
Mais l'équipe de Lens, tu te rends compte que c'est une très belle équipe, mais quand il manque 2-3 joueurs, les remplaçants sont sympathiques et combatifs, mais pas forcément au niveau. Et puis Lyon, parlons-en parce que c'est notre rival principal pour la 3e place. Et bien Lyon, ils commencent à tirer la langue parce que ils sont sortis de la Coupe de France comme nous d'ailleurs en quart de finale. Ouais. Mais ils ont encore l'Europa League.
L'Europa League, justement.
Voilà. Et le match, il intervenait entre les deux matchs contre le Celta Vigo.
Oui.
Belle équipe espagnole, pas évident à jouer. Et forcément, tu laisses des plumes. Le meilleur joueur lyonnais, c'est quand même Corentin Tolisso de loin.
Oui, et qui commence, je dirais, à tirer de la langue. Je vais m'exprimer ainsi.
Il a la langue qui touche par terre,
ah,
le mec,
oui.
il n'en peut plus. Et même des joueurs importants comme l'anglais Morton et tout, Niakate, le défenseur central sénégalais.
Un joueur majeur dans
cette
équipe.
Voilà, joueur majeur, Tagliafico, l'arrière-gauche
également.
Argentin, champion du monde, commence à fatiguer méchant. Et tu sens que les gars, ils sont sur les rotules. Il serait temps pour eux qu'ils récupèrent des blessés. Parce que là, vraiment, ils sont au bout et... Et là, alors qu'ils ont joué une demi-heure à 11 contre 10. Puisque...
Voilà, ça c'est important à souligner parce que là, on pouvait, en ayant vu le match comme toi, s'inquiéter du sort de l'adversaire. Mais non, mais finalement, ils n'ont pas su maîtriser la situation.
Voilà, il y a eu la 54, c'est-à-dire qu'il restait demi-heure, plus de demi-heure à jouer.
Plus d'une demi-heure à jouer.
40 minutes à jouer avec les arrêts de jeu. Hendrick qui part en profondeur, le mec qui le bouscule, qui le fait tomber.
Parce qu'une bousculade en pleine course, évidemment que ça induit à une faute et un carton rouge.
Évidemment,
malheureux.
Le mec, il était dernier défenseur, c'est rouge. C'est un jeune joueur, Zagadou, frère d'un pro d'ailleurs, pas du Havre, mais un pro ancien parisien qui est en Allemagne maintenant. Et Dan Axel Zagadou, pour ceux qui connaissent un petit peu dans le milieu du foot, son jeune frère, et donc il a pris un rouge, et il sort, et le Havre a dû finir pendant plus d'une demi-heure à 10 contre 11, et ils ont tenu...
Et bravo à eux.
Bravo à eux. Et c'est
il méritait peut-être un meilleur sort sur ce match-là.
En première mi-temps, moi j'ai vu une grande partie du match, Franchement, en première mi-temps, Le Havre aurait mené à la mi-temps, il n'y avait pas grand-chose à dire.
On n'aurait pas crié au scandale.
Ah non.
Même
non,
si Lyon a eu quelques occasions intéressantes, Le Havre était...
Parce que, après, Le Havre, il leur manque des mecs de talent pour mettre la balle au fond. Voilà, c'est costaud, ça joue bien, c'est super bien organisé, c'est combatif. Mais il te manque quand même... Il y a Boufal, l'ancien...
Ben d'ailleurs, il a été à l'origine de beaucoup de situations plus qu'intéressantes.
Voilà, tu sens que c'est un vrai joueur.
Il a resserré les liens au niveau de son équipe et techniquement, il était très présent.
Au-dessus. Alors après, il joue, il est très irrégulier, il a des trous, il défend pas beaucoup, mais il a du ballon, comme on dit. Et tu vois, quand il a le ballon, mais il fait des trucs quoi, que les autres ne savent pas faire. C'est une équipe qui est sympathique et courageuse, mais quand même un peu faible. Et Lyon aurait dû gagner, mais tu sens qu'ils sont sur les rotules et que ça va être compliqué. Tant mieux pour nous.
C'est pas fait pour nous déplaire.
Voilà, on est en concurrence, donc tant mieux pour nous. Voilà.
Bon, vous voyez, très rapidement, oui, puisque le Paris Saint-Germain est toujours premier avec 57 points, Lens a imaginé peut-être prendre la place de leader il y a une semaine ou deux, mais non, ils sont quand même à 56 points, Lens, second. Mais voilà, l'OM est là, 49 points. Alors, je voudrais avoir ton avis avant d'enchaîner sur le reste. Voilà, on a pris 2 points sur Lyon qui est à 47 points. Évidemment que derrière, ça se suit. Hein.
Oui.
Il y a évidemment Lille 44, la SM 43, ainsi que Rennes. Quoi. Donc évidemment, il y a une bousculade au Portillon pour les accès, à non pas pour la Ligue des Champions à tout le monde, parce que les places, il n'y en aura que 3 ou peut-être 4.
Oui.
Mais pour le reste des compétitions
Là où c'est compliqué, c'est que nos auditeurs, je pense, le savent, sinon on va leur expliquer. Mm-hmm. Il y a 7 places européennes.
Oui.
Il y a 3. Les 3 premiers sont qualifiés en Ligue des Champions. Le 4e joue un barrage, en rappelant que sur ces 5 dernières années, 4 fois, le club français s'est fait éliminer.
Ça reste donc hypothétique, cette
4e place. C'est très compliqué, c'est très embêtant, parce que c'est comme c'est début août que tu as le barrage. Il y a deux matchs. Il y a un match de barrage et il y a un match de play-off.
De play-off, comme on dit à présent.
Voilà. Et donc, il y a 2 matchs à jouer. Tu es emmerdé pour ton recrutement. Parce que si tu recrutes pour la Ligue des Champions en termes de salaire, en termes d'achat, et que tu ne te qualifies pas, ce qui est arrivé à l'OM il y a 3 ans...
On ne peut pas l'oublier.
Contre le Panathinaikos Athènes, le club grec, on s'était fait sortir, tu te retrouves à avoir investi et tu n'auras pas les recettes en face. Parce que les recettes ne sont pas les mêmes entre les différentes coupes européennes.
Et oui.
Donc il y a 3 ou 4 places en Ligue des Champions. Le 4e, s'il ne se qualifie pas en Ligue des Champions, il est en Europa League, où il y a 2 clubs, le vainqueur de la Coupe et un autre club qualifié d'office. Si le vainqueur de la Coupe vient être dans ceux qualifiés en Ligue des Champions, ben c'est le 6e qui monte de Ligue 1. Et la 7e équipe, ou 6e suivant le vainqueur de la Coupe, est en Europa Conference. Et le problème cette année, c'est qu'il y a 8 équipes pour cette place.
Et justement, ça se bouscule au Portillon.
Ah oui. Il y a donc évidemment Paris-Lens, il y a l'OM, il y a Lyon, mais il y a Lille, Rennes, Monaco et Strasbourg.
Alors, pour Lille et Monaco, évidemment, il va y avoir 2 matchs qui vont se suivre. Bon, il va y avoir une coupure internationale
au milieu,
après Lille.
Oui,
en effet. Donc, déjà, bon, il y aura ce match.
Dimanche, l'OM reçoit Lille.
Pour la 27e journée.
Et à la reprise, après la coupure internationale, on va jouer à Monaco.
Quel bel enchaînement.
Voilà.
Et là, on pourra dire ce qu'il en est véritablement.
On aura une vision plus intéressante. Sachant que Lille et Lyon en Europa League et Strasbourg en Europa Conference sont toujours qualifiés. Normalement, Strasbourg, ils ont gagné à l'extérieur à Rijeka, un club croate, donc normalement...
Oui. Ils devraient justement...
Devraient être en quart de finale.
Quart.
Mais enfin, je veux dire, il y a donc des possibilités que ces équipes aient des matchs en semaine. Et quand tu arrives à cette saison, tu laisses de la gomme.
C'est le moins que l'on puisse dire.
On en parlait pour Lyon tout à l'heure, tu laisses de la gomme. Donc ça peut être une bonne chose pour nous, parce qu'on dépendra aussi. Alors l'avantage de l'OM, c'est qu'on est devant. On est troisième, avec 2 points d'avance sur le quatrième, Lyon. C'est un gros avantage, parce que ça te permet de dire que ça dépend de toi. Si tu gagnes tous tes matchs, tu es sûr d'être en Ligue des Champions.
On y voit un peu plus clair.
Voilà, mais enfin, il faut gagner tous les matchs. C'est loin d'être fait. C'est... Il y a 8 journées, donc, voilà. Mm-hmm. Et ça m'étonnerait qu'on arrive à gagner les 8 matchs. Et on va y venir dans quelques mm-hmm. secondes par rapport au match contre Auxerre. Le problème de l'OM, c'est pas la qualité de l'équipe, c'est le contexte. Voilà.
Ça fait partie d'un ensemble. Donc.
Ça fait partie d'un ensemble parce que moi, j'étais au stade donc vendredi soir. Il y avait, pour les raisons que tout le monde connaît, élimination assez lamentable en Ligue des Champions et élimination au tir au but en Coupe de France contre Toulouse. Mmh. Tu aurais perdu, alors, parce que le tirage ayant eu lieu, si on s'était qualifié contre Toulouse, on allait jouer à Lens.
Un tiré gros, là.
Tu vas jouer à Lens, qui est second, qui joue le titre avec Paris.
C'était quitte au double, voilà, cette situation qui n'est pas arrivée.
Tu te fais éliminer à Lens, c'est honorable. Ouais. Tu te perds chez toi contre Toulouse au tir au but. En plus, avec, on avait parlé la semaine dernière, hein, Balerdi qui vient tirer, tout le monde dit merde, il va le rater et il le rate. Voilà, donc, enfin, bref.
Il y a eu des éléments qui, justement, voilà. Allaient.
Il y a eu une colère que je comprends tout à fait, j'en fais partie, mm-hmm. des supporters, qui est plus que déçu. Mais le problème, on l'a vu vendredi soir, première mi-temps, les banderoles, on vous ignore. Voilà, c'est déjà mieux que mettre « vous êtes des merdes » comme ça a été le cas à Toulouse.
Ouais, mais quand on fait ça à l'extérieur, voilà. Qu'on affiche cela et qu'on fait un déplacement jusqu'à Toulouse pour s'exprimer ainsi,
ça,
autrement
ouais,
dit...
c'est un peu bizarre, tu ferais mieux de ne pas y aller. Quoi. Et donc le stade était en première mi-temps, ça n'encourageait pas, mm-hmm. ou très peu.
Ouais, pratiquement pas.
Voilà, ça sifflait l'arbitre parce qu'il a fait 2-3 décisions un peu à la noix. Ça sifflait parce que tu avais le ballon, tu tournais en rond et tu n'attaquais pas. Mais bon, c'était...
Je crois, me semble-t-il, Patrick, que la première réaction du public a été pour Aubameyang, qui a fait une course de 80 mètres pour récupérer un ballon.
Le vieux 38 ans, hein, Pierre-Emerick Aubameyang, il a fait ce que le joueur d'expérience fait, c'est l'avant-centre. Il a suivi, il est descendu défendre sur une contre auxerrois, dangereux, et il est venu tacler devant ses 18 mètres et mettre la balle en touche. Et ça plaît, surtout à Marseille. Voilà, ça plaît parce que le mec, il a mouillé le maillot, il s'est battu. Et il a raison, c'est comme ça que tu emportes le public. Et c'est vrai qu'on a vu, moi c'est là-dessus que je voudrais insister, une équipe tétanisée par la peur, où en première mi-temps, personne n'osait, personne frappait. C'était, tu as l'impression, à part un peu Greenwood et un peu Pekchao, parce que Aubameyang, il a défendu parce qu'il n'a pas eu un ballon devant. Il n'a pas eu une balle. Et où on était, c'était plus j'assure, je fais attention, je fais une passe en retrait pour ne pas perdre le ballon, plutôt que je tente un truc risqué, dangereux. Parce que si tu n'es pas en confiance, c'est clairement l'équipe pas en confiance et paralysée. Et franchement, moi je le dis comme je le pense, hein. Si Auxerre avait cru en ses chances et avait attaqué, alors c'est faible. Hein. Auxerre, c'est pas pour rien qu'ils sont 16e.
Ils ont réussi quelques démonstrations, mais ils auraient pu égaliser. Heureusement, ils n'ont pas concrétisé.
En seconde mi-temps, leur égalisation, elle est annulée parce que le mec, il contre le ballon du bras. Il fait une main à la surface.
Ça restait tout de même discutable, cette action de jeu, ce but refusé. Et bien content
heureusement qu'il y a le VAR qui a signalé que le mec, il se jette pour envoyer le ballon dans le but et il le touche du bras. C'est assez net quand on regarde les ralentis. Et donc, le refus du but est normal, puisqu'on sait que dans le règlement, même si c'est accidentel, quand l'attaquant touche le ballon du bras dans la surface, touche le ballon du bras tout court d'ailleurs, le but est annulé. Parce qu'il y a une
généralement, les attaquants dans les surfaces adverses sont plus sanctionnés.
Oui, ils sont plus que le défenseur, où on peut dire la main était volontaire, le mec il tire à bout portant et tout. Là, un simple truc du bras, même accidentel, alors là, le mec il se jette pour envoyer le ballon. et il le prend en plein sur le bras, donc l'annulation. Mais
là, c'est un fait de jeu qui est arrivé donc en seconde période,
en fin
après
match,
l'égalisation
en fin
de l'Olympique de Marseille.
Après le premier but du match.
On a évité l'égalisation, justement.
Voilà, ouais. Sur une action comme ça. Alors, il n'y a rien à dire, parce que dans l'ensemble, mais en première mi-temps où l'équipe était tétanisée, ouais. Si Auxerre, ils y croient, c'est-à-dire c'est ce que râlait l'entraîneur d'Auxerre après le match.
Il y a de
dit,
quoi.
Si on avait pris notre chance, peut-être. Parce que là, moi, on en parlait avec les copains en tribune, hein, en virage. Si tu prends un but en première mi-temps alors que tu es complètement bloqué et que tu n'y arrives plus, c'est là tu es mort. Là, tu es mort complet parce que je ne vois pas comment tu serais revenu. Et là où c'est
un petit peu ça qui a provoqué, non pas l'instabilité qui était déjà présente au Premier Olympique de Marseille, mais en tout cas le fait qu'on n'a pas tenté, essayé justement provoquer la profondeur.
Quoi. Tu sentais que les joueurs, ils étaient paralysés.
Ouais.
Et pourtant, tu as des joueurs d'expérience. Et Højbjerg, Kondogbia, ils n'ont pas été, ils n'ont pas fait un mauvais match.
C'est vrai que j'appréciais leur présence.
C'est des mecs de métier, Aubameyang et tout. Mais tu sentais que les mecs, ils portaient 20 tonnes sur les épaules.
Oui.
Seconde mi-temps, à la mi-temps, le public, quand l'équipe est rentrée, a encouragé, tu as applaudi, tu as chanté et tout, c'était plus la même équipe. Là, tu as attaqué, tu as créé des occasions. Alors, tu as manqué, je ne dirais pas, tu as manqué un éléphant dans un couloir, mais pas loin.
Ça manquait véritablement de justesse.
Mais ça manquait, exactement, pour dire les choses gentiment. Mais tu as quand même archi-dominé. Le gardien a fait 2-3 arrêts de qualité. Tu t'es créé les occasions et tu es arrivé à mettre un but. Un joli but d'ailleurs de Guiri qui reprend un ballon, une belle action de Peck Shaw. Oui. Que le centre soit touché par un défenseur auxerrois, c'est anecdotique.
Oui.
Parce que le ballon est revenu sur
Guiri. Sur Guiri, la reprise est de qualité.
Est de qualité,
très
il la met au fond, il n'y a rien à dire. Mm-hmm. Et on aurait pu marquer un deuxième, un troisième, on ne l'a pas fait, malheureusement.
Malheureusement.
C'est en ça que tu sens que l'équipe n'est pas encore en confiance. Ouais. Et c'est le problème contre Lille, qui est une meilleure équipe pour qu'Auxerre, parce qu'Auxerre, c'est pas un hasard, sont 16e. Hein. C'est faiblard. Hein.
Tout est relatif.
C'est courageux, c'est combatif, c'est bien organisé. Ça, comment dire, c'est structuré, mais il n'y a pas de talent, quoi. Tu vois pas des mecs où tu te dis celui-là il a la classe, il a un niveau au-dessus, tu n'en as pas. Et donc
nous aurons notre opposition donc dimanche,
voilà, une équipe avec des joueurs de qualité, des Bentaleb, des Bouadi, des Fernandez Pardo qui a fait un super match ce week-end à Rennes, Giroud s'y joue, c'est des joueurs de talent. Mbemba, qui aura une revanche à prendre et tout.
D'autant
et
plus.
Et voilà, c'est des joueurs de qualité. Plus, Et là, ça peut être plus compliqué. Là, ils ont des occasions, ils risquent de ne pas les rater. Et ça ne sera pas forcément évident, surtout si tu vendanges un peu, que tu es imprécis dans les dernières passes, de marquer. Donc, il va falloir qu'on arrête les... Alors, je suis parfaitement conscient. Hein, on en parlait au stade avec des gens que je ne connais pas. Hein, les supporters, tu es en tribune.
On parle, on converse, on échange.
Tu discutes à la mi-temps. Tout le monde disait « qu'est-ce qu'on est mauvais, c'est la plus mauvaise mi-temps de l'année ».
Ça a permis de faire un peu de bruit au stade, qui était silencieux en première mi-temps.
Voilà. Mais tu te dis, tu n'as pas beaucoup de marge. Si tu joues comme ça, tu vas jouer à Monaco, tu vas recevoir Rennes. Tu peux pas gagner en jouant aussi mal, aussi médiocre.
C'est vrai qu'on conclura la saison par Rennes.
Et même si c'est pas enthousiasmant comme une victoire en coupe, une qualif en Ligue des Champions, financièrement, la qualif en Ligue des Champions est une nécessité.
Ah oui, c'est le terme.
Parce qu'il n'y a pas les droits télé.
C'est obligatoire.
Donc tu es dans une merde monumentale, tu as un budget important, tu as des joueurs qui ont des gros salaires. Si tu veux essayer de garder un Greenwood ou des trucs comme ça, qui est le seul joueur de classe de cette équipe, hein, c'est le seul qui a...
Oui, ça reste notre joueur de qualité majeure.
Quand tu le vois avec le ballon, tu dis, celui-là, il a de la classe, il a du ballon. Si tu veux garder des bons joueurs, il faut les payer, il faut acheter, il faut renforcer. Il faudra garder les mecs qui auront des propositions.
Ouais.
Surtout, ça sera après la Coupe du Monde. S'il y a des joueurs qui flambent, Tu peux avoir au mois d'août des équipes qui viennent, qui proposent de doubler les salaires, et là c'est très très compliqué.
Pour s'aligner, on ne sera pas capable au niveau financier, ouais, pour l'instant. En tout cas.
Déjà qu'on a un problème, tu n'as plus de président, tu ne sais pas qui va faire le recrutement parce que Mehdi Benatia, théoriquement, s'en va en juin. Donc qui va construire, qui va négocier les prolongations? Le président, c'est un intérimaire, on sait que ça ne sera pas lui qui restera.
On vit un petit peu au jour le jour.
Voilà, tu vis au jour le jour, il faut finir la saison. Si tu n'es pas en Ligue des Champions pour vendre la qualif, et puis parce que ça intéresse les joueurs, parce que tu brilles en Ligue des Champions, on te voit à la télé.
C'est évident.
Ça va être très compliqué. Donc c'est vrai que ce n'est pas mobilisateur, il faut être troisième.
Plus qu'important, remobiliser déjà, ne serait-ce que l'équipe, mais le staff.
Oui, les supporters.
Les supporters et l'ensemble.
Parce que là, ce qui moi m'inquiète un peu, c'est que tu as un staff, Bey et son équipe. Ces trois adjoints qui sont venus avec lui de Rennes.
Ouais.
Tu as Benatia qui est directeur sportif. On ne sait pas s'il reste ou pas.
Ben, ils sont encore dans la prise de température, voilà. Si je peux me permettre, mais on ne sait pas quel est l'avenir va être
voilà.
fait.
C'est-à-dire qu'on rappelle que McCourt a demandé à Benatia de rester jusqu'en juin, c'est-à-dire de respecter son contrat. Théoriquement, il est démissionnaire, il s'en va. Le staff, c'est clair, même s'ils ont signé un an et demi, que si on n'est pas qualifié en Ligue des Champions, il dégage. Voilà, c'est clair.
Bah, il est clair que là, il y aura des changements majeurs au sein de l'ensemble du club.
Au niveau des joueurs, tu as des gars qui vont te dire « je veux partir ». Hein, voilà. Et donc, ça risque de...
Au-delà des joueurs que l'on devra céder.
Voilà, on devra des joueurs qui sont prêtés, qui ne voudront pas rester, que tu vas essayer de vendre si tu arrives à les vendre. Une qualif en Ligue des Champions, ça te permet de mieux vendre et tout. Et donc, c'est très inquiétant. Alors, je sais que ce n'est pas vendeur pour les supporters qui ont rêvé de la coupe. Mais économiquement, le club, si on n'est pas qualifié en Ligue des Champions, je ne parle même pas de l'hypothèse catastrophe, on est 8e, on n'est pas en Coupe d'Europe. Parce qu'au moins, l'Europa League, ça te fait des matchs plus accessibles que la Ligue des Champions. Hein. C'est quand même un niveau. Tu vois, Lyon, cette année, ils ont fini premier de la poule. Voilà, je veux dire, c'est que tu n'as pas... Tu n'as pas des Arsenal, des Liverpool, des Real Madrid, des Barça, des Bayern Munich.
Effectivement, mais on sait très bien que le public attend autre chose.
Voilà. Mais si tu n'as pas ça, et c'est donc inquiétant, même si je ne pense pas qu'on puisse ne pas être dans les 7. Il faudrait vraiment qu'on s'effondre. Mais c'est une nécessité économique et sportive. Si tu veux que, si Bey s'en va et que tu veux un coach de haut niveau, si tu veux 2-3 renforts comme on avait fait... Adrien Rabiot, des trucs comme ça. Ouais. Tu fais les mecs parce que tu joues la Ligue des Champions, parce que tu as un projet, et ils viennent là-dessus. Si ton projet, c'est Habib Bey pour jouer l'Europa Conference, je ne suis pas persuadé que ça intéresse beaucoup de monde.
Et quand bien même sur la ligne conductrice, que je souhaite évidemment de tout cœur, une fois de plus, que l'on se qualifie en Ligue des Champions, je ne suis pas persuadé non plus qu'on reste dans la continuité avec l'entraîneur actuel.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, Bey a montré, moi je pense quand même que c'est un bon entraîneur.
Oui, il fait preuve de beaucoup de résilience et il a des capacités plus qu'intellectuelles, sportives.
C'est un bon communicant,
oui.
Il passe très bien à la télé. C'est parce qu'il a quand même fait, on le rappelle, une carrière de consultant télé où il était brillant.
Faut pas oublier son parcours.
Quand il était à Canal, il était brillant. C'était le meilleur commentateur de match. Il communique bien, c'est un ancien joueur international. Il est bien apprécié à titre personnel par les supporters, c'est un ancien et un ancien capitaine du club.
Aussi.
Il y était à l'époque de Drogba, donc c'est des époques où il y a une certaine nostalgie. Donc ça plaît, le président c'était Pape Diouf, voilà, c'est les trucs.
Alors c'est vrai que les supporters, en l'occurrence, nous en faisons partie, n'aspirent pas forcément à la nostalgie.
Mais ça compte,
ça compte.
Ancien capitaine du club, ancien joueur exemplaire, combattant, guerrier, bon joueur. Dans une époque où on était en finale de l'Europa League et avec Didier Drogba, on avait perdu contre Valence en finale à Göteborg.
Quelle tristesse, on ne peut pas l'oublier.
Voilà. Évidemment. Et donc, c'est des trucs quand même qui te renvoient à une période où L'équipe était une équipe compétitive. Ouais,
c'est le côté combatif et solidaire, voilà, justement, qui pèse
c'est
son absence
qui plaît,
actuelle.
C'est un combattant. Abibay, c'est un combattant. C'était un arrière latéral ou défenseur central, puisqu'à l'époque de la finale de l'Europa League, il faisait la charnière avec... Il y avait, c'était Brahim Hamdani qui avait reculé en axial, et les deux stoppeurs, c'était Bamou... C'était Meïté, c'est son prénom, je ne me rappelle plus. Et Abdoulaye Meïté et Habib Bey, qui était stoppeur droit, Habib Bey, qui jouait arrière droit.
Hamdani étant descendu d'un cran à cette époque-là, voilà. Il était d'une justesse fabuleuse dans ses passes à 10 mètres.
Ah oui, c'était un excellent relanceur. Et c'était donc Ferreira, le Brésilien, Demetrius, qui était arrière droit. Bon. Bey était glissé en défense centrale.
Là, on est dans la séquence nostalgie.
C'était les combattants, et donc ça plaît. Maintenant, ça lui permet d'avoir quand même au niveau des supporters. Quand on donne le nom entraîneur à Bibay, il applaudit. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde pour les joueurs.
Ouais, voilà. Mais qui reste quand même, qui donne une marge. Mais oui. Il ne faudra pas que tout se dégringole parce que...
Il faut que tu sois en Ligue des Champions. Et voilà. Tu es troisième. Tu as perdu la coupe, il faut que tu sois troisième. Comme je disais tout à l'heure, la coupe, tu tombes en demi-finale à Lens après un bon match. C'est une chose.
Ben là, c'était du quitte au double si ce scénario-là serait arrivé. Ouais.
Tu perds chez toi contre Toulouse après avoir mené 2-1 et avoir pris une égalisation en bois.
Ouais.
Stade,
ça n'est toujours pas remis.
Ah non, ça n'est pas remis. Et donc, par contre, tu as besoin de tes supporters à domicile comme à l'extérieur, mais surtout à domicile. Parce que quand le stade est chaud, on l'a vu en seconde mi-temps contre Auxerre, tu embarques le match. Voilà. Et combien de fois contre Lyon en championnat, c'était Lyon, hein. Donc c'était l'adversaire, c'était l'ennemi. Oui. Le stade a joué son rôle, et sans le stade qui te pousse, tu ne gagnes pas dans les arrêts de jeu. Hein.
Alors peut-être
tu n'es pas le troisième.
Oui,
hein,
c'est certain.
C'est-à-dire, si tu as un stade et frondeur qui te siffle, c'est pas la même chose. Surtout qu'on n'a pas des joueurs comme on avait à une époque qui ont le cuir tanné et qui résistent. Voilà. Ouais. Tu as des gars qui...
qui semblent transpirer une fragilité déconcertante. Oui. On attendait un peu plus de caractère de certains, mais ce n'est pas forcément le cas. Ouais.
Voilà, parce que contre Auxerre, on a fait rentrer parce qu'il a joué en défense à 3. Tu as quand même tenu, tu joues Auxerre à la maison, 16e, hein. Donc, barragiste, tu as joué avec une défense à 3.
Il a fallu peut-être moduler avec l'absence d'Agarde.
Oui, Agarde étant, il a été opéré d'un problème d'adducteur. Oui. Donc, tu avais Pavard à droite, Medina à gauche, et tu avais en axial, tu avais Gan Riley. C'est un jeune joueur qui est pas mal, qui est anglais.
Oui, qui a fait une prestation intéressante. Correct, voilà. Mais d'ailleurs, il serait sur le départ a priori. Hein.
Oui, après, il cherchera à le vendre, mais comme il est venu libre, ça fait des ronds. Quoi. Mais dans les conditions où il a joué milieu axial, dans
c'est
une
pas
équipe
évident.
Qui n'était pas en confiance, ou Pavard, dès qu'il a le ballon, il se faisait siffler, et où, ma foi, tu tremblais, je trouve qu'il ne s'est pas si mal démerdé, il n'a pas fait d'erreur.
Je suis assez d'accord.
Voilà, il a fait un match moyen, voilà. Mais tout le monde a été moyen en première mi-temps.
Quoique sur l'ensemble du match. Hein,
Oui, sur l'ensemble du match, personne n'a cassé les briques.
Maintenant, je voulais te poser une question à ce sujet-là, justement, sur ce que pensent les supporters, parce que beaucoup me disent, et je peux les comprendre malgré ceux, veulent voir du spectacle, du beau football. Mais les gars, vous êtes trompés, là. C'est très simple. L'objectif n'est pas de voir du beau football actuellement. L'objectif, c'est de dire tout bêtement de gagner les matchs et d'engranger des points.
C'est ce qu'a dit Habib en conférence de presse d'AP Match. Il a rappelé que depuis janvier, parce qu'en fait, ce qui énerve les supporters, c'est que jusqu'en décembre, tu jouais bien.
Oui.
Tu étais qualifié à 92% en Ligue des Champions. En championnat, tu commences en jouant le trophée des champions contre le PSG au Koweït, où tu perds au tir au but.
De formelles prestations
voilà,
de nos joueurs.
Tu mènes jusqu'à la 95e et ils égalisent pour aller au tir au but. sur un contre, enfin vraiment un truc assez maladroit.
Après ça, enfin, petit à petit, ça commence à s'effondrer.
Voilà, tu t'es effondré en faisant le non-match à Bruges, où tu as été catastrophique.
Élément déclencheur également.
Tu t'es effondré en prenant le 5-0 au Parc, ce que les supporters ne supportent pas. Surtout, tu as été mauvais de chez mauvais.
C'est rien de le
dire. Et donc, l'équipe s'est effondrée et tu prenais 2 à 3 buts par match. Ouais. Donc il fallait, et c'est ce qu'a fait Habib Bey, et à mon avis il a eu raison.
On peut parler des 2 clean sheets.
Oui, voilà, il fallait fermer.
Eh ouais, on a fermé.
Alors c'est vrai que quand tu fermes, tu joues en 3 défenseurs, 2 latéraux qui jouent bas, ton milieu qui défend d'abord avant d'attaquer, de se faire en prendre en contre, parce qu'on a perdu plusieurs fois des points en se faisant prendre en contre à la 90 plus 3 ou 4, alors qu'on menait 2 à 1 et qu'on se fait à Paris FC... au Vélodrome contre Angers ou contre Toulouse.
On domine territorialement,
mais... Tu mènes, tu as les occasions, tu ne les as pas mis, et tu te prends contre bidon, contre Toulouse, c'est une touche longue. Enfin, c'est hallucinant. Quoi.
Il a fermé tous les écrous, tous les verrous.
Là, ben, il a fermé, il a serré les boulons. Moi, ce que j'ai apprécié, parce que ce n'est pas beau, mais ça ne gagne pas, ça débarrasse, comme on dit,
on est bien d'accord.
C'est qu'il y a des ballons, tu mets un grand coup de botte et tu dégages une touche. Voilà, tu ne vas pas t'amuser à partir en dribble et en 1-2 dans ta surface, alors que tu es à 1-0.
Chose que nous ne faisions pas sous le règne de Roberto de Zerbi.
Zerbi, il fallait repartir en jouant.
Proprement.
Ça t'a coûté des buts. Là, au moins, tu as fermé. Alors certes, tu ne flambes pas, parce que tes latéraux, on l'a vu contre Auxerre, Timothy Weah, qui est très offensif. Rappelons que c'est un joueur qui a été formé et lié, hein.
C'est dingue le travail qu'on lui demande à ce joueur.
Il peut jouer latéral, mais il peut jouer ailier. Sauf que tu voyais qu'il avait la consigne de beaucoup moins monter. Sous De Zerbi, c'était un ailier. Il était tout le temps devant.
C'était la flèche.
Là, quand même, il avait mis Medina à gauche. Ce qui a permis de faire entrer après Emerson pour fermer au milieu, pour fermer couloir gauche.
Milieu derrière, ce couloir. Ouais.
C'était Pechao qui jouait couloir. Il a fait monter Pechao, il a fait rentrer Emerson pour fermer un peu.
Fort judicieux.
Voilà, fort judicieux. Tu as rééquilibré ton équipe. Tu as tenu ton résultat. Sauf qu'à Toulouse, en championnat comme là contre Auxerre, tu as gagné. Et les 6 points, ben, ils font du bien. Ils peuvent te mettre en confiance.
Oh oui.
Et c'est pour ça que dimanche contre Lille, il faudrait gagner.
Il y a une opposition à peu près beaucoup plus délicate sur le papier.
Plus compliquée, les Lillois. Ouais. À part que jeudi soir, ils ont joué à Aston Villa en Europa League.
Ouais.
Voilà.
D'où la réaction, on ne va pas revenir sur Olivier Létang qui réagit
qui prépare le contre-feu. S'il venait à faire des prolongations à Aston Villa, je ne pleure pas, quoi. Parce que les mecs vont jouer 30 minutes, voilà. Donc ça voudrait dire que ils arriveront au Vélodrome plus fatigués. Et donc on est dans cette situation, mais nous on s'occupe de nous. Et c'est là qu'il va falloir. Mais je pense que les assos de supporters sont pas stupides. Les gens ont bien compris. Simplement, tu en as marre. Et c'est vrai que dans cette équipe. Il y a un truc, moi ce que je vois, c'est en parlant, dans le virage, tu parles avec des gens que tu ne connais pas. Hein. Voilà. Je ne parle pas qu'à mes potes.
Là, on est au-delà des associations, il s'agit de personnes autour de toi qui réagissent.
Voilà, qui t'entends parler, tu discutes. Il n'y a pas de joueur auquel tu t'identifies dans cette équipe. Voilà. Comme tu avais, tout à l'heure, je parlais de Drogba, je pouvais parler de Bey, d'ailleurs.
Par exemple.
Ou de garçons qui représentent le club, sans aller jusqu'à Papin et compagnie.
Non, mais là, ça fait cruellement défaut.
Voilà, tu as des joueurs qui sont de passage, qui ne sont pas là depuis longtemps. Aubameyang, quand même, il est très aimé. C'est pour ça qu'on a apprécié son repli défensif. D'ailleurs, il a été applaudi.
Lui qui a été l'élément déclencheur.
C'est lui le plus malin, en fait. Voilà. Le mec qui sait jouer avec le public. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un problème d'identification. Tu n'as pas un joueur, tu peux dire Greenwood, parce que c'est le meilleur. Oui, ça d'accord, parce qu'il est fort.
Oui.
Mais tu n'as pas de joueur où les gens ils s'identifient, ils ont le maillot et compagnie. Tu n'as pas tellement... Et ça manque dans ces moments de crise. Tu n'as pas un capitaine qui est reconnu, qui est un leader. Et l'équipe, tu la sens mentalement fragile.
Et oui, parce qu'on parlait de voilà. Ah, cette équipe est malade, mais non, elle est convalescente en l'occurrence.
Oui, elle est convalescente.
Il faut justement résister à toute pression extérieure qui n'a pas lieu d'être.
Voilà, et c'est le problème des supporters où tu dis je vais siffler, je vais les pourrir. Ça défoule sur le moment,
oui.
Mais ça ne construit pas. Quoi.
Et ça peut,
voilà.
C'est compréhensible
malgré
ce.
Et ça peut être même catastrophique. Tout à l'heure, on disait une non-qualif en Ligue des Champions. Les départs de tes, par exemple Greenwood, les meilleurs joueurs s'en vont. Rappelle que Greenwood, on l'a acheté 30 millions. Mm-hmm. Si tu le vends, la moitié du bénéf, oui. Au-dessus de 30,
évidemment.
Il va à Manchester United. Hein. C'est le contrat, c'était ça ou rien. Hein. Donc si tu le vends 60, tu as 30 de bonus, 15 qui partent à Manchester. Donc voilà,
bon,
si tu le prends, il faut le remplacer.
Oui,
voilà. Donc c'est compliqué. Donc la qualif en Ligue des Champions est nécessaire. Et j'espère que le public le comprendra et encouragera, parce que c'est une équipe fragile mentalement.
Elle voilà. demeure indispensable, cette qualification.
Oui, oui.
On pourrait se contenter d'une qualification en Europa League.
Oui, parce qu'une qualification en Ligue des Champions veut dire que tu peux garder quelques joueurs,
oui.
Tu peux en attirer d'autres. Si tu changes d'entraîneur, tu peux attirer un entraîneur de notre acabit, que Habib Bey, si Bey s'en va. Et c'est donc une nécessité technique, sportive.
Absolument.
C'est pas qu'une question de fric. C'est une question aussi d'attractivité. Quoi. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, on le voit, tous les mecs veulent jouer la Ligue des Champions. Voilà.
Bon.
Et tu as pas.
Au-delà
voilà.
de ces épisodes qui ne vont pas tarder à arriver,
oui.
Enfin, en tout cas sur le Showtime, continuons la fin de cette 22e saison en essayant d'optimiser
oui.
et de gagner le maximum de matchs qui nous reste.
Mm-hmm.
Donc il va falloir.
Ça va être compliqué parce qu'on se déplace à Monaco.
Ouais.
On se déplace à Lorient.
Alors,
qui est invaincu depuis oui. Septembre sur son terrain. Ça ne va pas être un match simple. Hein. Lorient, les mecs pensent que c'est que dalle, mais ça ne va pas être commode.
Oh,
et
non.
Après, on finit en jouant à Nantes
et au Havre. Oui.
Où les deux équipes risquent d'avoir besoin de points pour le maintien.
Elles en ont besoin.
Voilà, Nantes c'est sûr, le Havre peut-être.
Ouais.
Donc ça ne va pas être simple. Et à la maison, on reçoit donc Lille, on va recevoir Rennes en dernier, et on recevra, bon, Metz, ils sont déjà en Ligue 2, mais on ne sait jamais. Mais on va recevoir aussi Nice,
oui.
qui est une équipe qui a besoin de points, et qui donc viendra l'esprit libre en disant « je viens, j'ai rien à perdre ». C'est pas des matchs simples pour une équipe qui est mentalement fragile. Quoi.
Donc, il va y avoir après ce match face à Lille une coupure internationale.
Oui.
Donc en espérant qu'elle sera bénéfique à nos joueurs et à notre équipe, bien évidemment.
Oui, ça permettra de travailler un peu les automatismes,
mm-hmm.
de regonfler un peu le mental. Mais ça va pas être simple. Et c'est vrai que la base, il faut qu'il y ait la paix dans le stade. Un stade frondeur qui te siffle, des banderoles d'insultes, c'est pas comme ça que tu vas aider les gars à jouer, quoi. Et moi, ce que je crains, parce que je l'ai connu à l'OM étant un ancien,
hein, évidemment.
Très ancien, 74 ans bientôt, des époques où en fait tu te tires une balle dans chaque pied, quoi. Parce que tu flingues tes joueurs, tu les paralyses, et en fin de compte, c'est toi qui perds. C'est le club qui perd. Voilà.
Les époques changent, malheureusement, les réflexes.
Oui, les réflexes restent
pas,
parfois. Aidés par des réseaux sociaux et des médias qui te font des kilomètres sur la crise. Est-ce la crise, est-ce la fin? L'équipe télé, tous les jours, mais trois fois, hein, puisque l'équipe de choc, l'équipe de Greg, l'équipe du soir, il y avait le débat. Et l'OM va-t-il couler? L'OM aussi, l'OM machin. Et...
Ça reste de bonne augure,
voilà.
Malgré ce.
Oui,
ça fait vendre.
On ne parle jamais de l'Auxerre ou d'équipes comme Le Havre, Lorient ou Angers qui sont méritantes. On ne parle que des trucs qui vendent. Quoi. Voilà. Et comme on sire les pompes au PSG, parce que c'est le club qui dirige tout, on ne peut pas les critiquer, eux. Donc,
on ne va pas revenir sur cela, évidemment.
Voilà. Non, mais c'est des fois, quand tu regardes avec un peu de recul, tu dis, mais ils prennent vraiment pour une con.
Ah, ben
tu as le même débat dans toutes les émissions, mm-hmm. et donc tu es là-dessus. Quoi. Enfin, espérons
c'est
que
une récurrence.
Voilà, que ça ne se passera pas, qu'on arrivera à accrocher la troisième place, parce que... Puis ne serait-ce que pour vivre des matchs de Ligue des Champions au Vélodrome l'année prochaine.
Ah, voilà. Ne peut-on pas avoir un peu plus d'espoir? J'imagine bien que déjà s'accrocher à la troisième place serait, c'est le but, être qualifié en Ligue des Champions. Mmh. Mais sachant que Lens commence quelque peu à décliner, que nous sommes dans non pas une forme optimale, mais commençons à reprendre espoir, espérer avoir un espoir à ce niveau-là.
Franchement, tu as 7 points de Lens. Ouais. Il te reste 8 journées.
Mathématiquement, cela
et
est faisable.
Et Lens, qu'est-ce qu'ils ont? Le demi-finale de coupe contre Toulouse. Mmh. Voilà. Où ils joueront chez eux un jour de semaine, mais ils vont récupérer plusieurs blessés. Baïdou, ils ont Wesley Saïd vont revenir. Donc, je serais très surpris que l'équipe de Lens, elle le lâche. Oui. Elle est costaud, c'est une équipe qui joue bien. Moi, je les ai vus souvent à la télé. J'ai vu, entre autres, le match contre Lyon en Coupe de France, où ils ont été très costauds. Et un quart de finale.
Oui.
Et ça m'étonnerait énormément. Ne cherchons pas à aller chercher les 7 points sur Lens et un goal average négatif par rapport à eux. Ne cherchons pas ça. Assurons la troisième, on a 2 points sur Lyon. Attention au retour de Rennes, Monaco, Lille. Assurons la troisième place.
Toujours un œil dans le rétroviseur.
Toujours un œil dans le rétro. Et il faut faire nos matchs. Il ne faut pas penser aux autres. Il faut jouer nos matchs et les gagner.
Tout simplement.
Sachant qu'on ne gagnera pas 8 matchs, mais si on peut en gagner 6, on sera en Ligue des Champions.
Optimisons cela et allons jusqu'au bout.
Voilà.
Avec cette ambition de victoire et de qualification. Bon, nous allons terminer nos propos, propos, et le cœur est avec nous et est avec vous. Nous le partageons. Voilà. Patrick, merci.
Il n'y a pas de quoi.
Merci à toutes et à tous.
Bonne fin de semaine à toutes et à tous.